ce que vous voyez au mur, don de Dieu, ferez valoir. Pour Samuel de Champlain, sa foi était assez pertinente dans sa vie pour qu'elle devienne sa devise et qu'ils veulent la transférer à toute une population de sorte que « don de Dieu ferait valoir » est devenu la devise de la ville de Québec depuis 400 ans. Ma question ce matin pour vous, c'est pourquoi la foi chrétienne de Samuel de Champlain était-elle si pertinente pour lui? Et si elle était pertinente pour lui il y a 400 ans, est-ce que cette même foi chrétienne est toujours pertinente pour les Québécois de l'année 2008? Voyez-vous, quand Samuel de Champlain est arrivé ici, là, c'est pas nécessairement que de son pays, tout était rose pour l'Évangile, puis tout était facile, puis tout allait bien. J'aimerais en introduction vous donner un peu d'histoire de la France du 16e siècle. 16e siècle, ça veut dire les années 1500. Dans les années 1500 en France, la vie était très dure pour les Huguenots ou les réformés ou les protestants francophones de France. Voyez-vous, les Écritures, la Bible, les Saintes Écritures, l'Évangile de Jean qu'on va distribuer, elle était devenue disponible en langue commune. Ça faisait 100 ans que l'imprimerie avait été inventée par Gutenberg. 1450, vous comprenez ça là? Avant 1450, personne ne passait aux portes pour dire « voici l'Évangile de Jean, vous devriez le lire ». La Bible, la parole de Dieu qui était connue des gens, elle était en latin. C'était la Vulgate. Et le Fèvre d'Étaples, un professeur à l'université de Sorbonne, a traduit la Bible en français, la première Bible en français, vers les années 1512, 16e siècle. Alors, à partir de 1512, on avait des traductions en français de la parole de Dieu et on avait l'imprimerie par Gutenberg. Alors, les gens ont commencé, savez-vous quoi, à lire les Écritures. Et en lisant les Écritures, ils sont aperçus qu'il y avait des problèmes avec leur religion qu'ils avaient eux autres. Parce que ça ne fitait pas avec l'Évangile de Jean, ça ne fitait pas avec les Écritures. Et Lefebvre d'Étaples, qui était un professeur à l'université de Sorbonne, ça c'est à Paris, lui il a traduit la Bible et il a commencé à enseigner. Il enseignait que pour la foi, la Bible était suffisante. Et pour être sauvé, la justification, ça se trouvait par la foi, d'après la Bible, et pas d'après, à travers des sacrements, à travers des sacrements tels que l'Église catholique de ce moment-là l'enseignait. Et savez-vous quoi? À l'Université de Paris, on a commencé à étudier la Bible et à croire. Un autre professeur de l'Université de Paris, peut-être vous connaissez un peu mieux lui, il s'appelle Jean Calvin. Jean Calvin, professeur à l'Université de Paris, lit la même chose. Et en 1533, il se convertit. Et il est un professeur influent. Alors, il parle au recteur de l'Université de Paris. Et il envoie une belle lettre au recteur de l'Université de Paris en expliquant la foi chrétienne. Ce tract-là se répand à l'Université de Paris comme poudre. Et soudainement, il y a tout un relèvement à l'Université de Paris et Jean Calvin et le recteur doivent fuir pour la Suisse à cause de la foi qu'ils viennent de présenter à l'université. Et Jean Calvin, il est resté en Suisse, puis vous connaissez un peu d'histoire de l'Église, il va écrire des choses vraiment fondamentales dans la foi évangélique que nous avons. Les calvinistes, on les appelle calvinistes parce qu'ils croyaient ce que Jean Calvin avait annoncé à l'Université de Paris, puis il y avait toute cette... Alors ces gens-là, on a commencé à les appeler les calvinistes. Et les calvinistes en France... parce que Jean Calvin était parti en Suisse, les calvinistes en France ont pris le nom de Huguenots. Pourquoi Huguenots? On ne sait pas trop. Il semble qu'il devait avoir un monsieur Hugues, en quelque part, qui devait parler de sa foi plus fort que les autres, puis on l'a identifié avec lui, fait qu'on les a appelés les Huguenots. Les Huguenots, alors, étaient de ces chrétiens évangéliques du 16e siècle en France. Et ces chrétiens évangéliques en France au 16e siècle, 1560, 1570, ils étaient persécutés, ils étaient poussés beaucoup en France. Alors, à ce moment-là, depuis 1534, vous avez appris ça dans votre petite histoire du Canada, ils avaient découvert une autre place pour vivre. Puis c'était pas la Lune. Savez-vous, c'était où? C'était la Nouvelle-France. C'était une nouvelle place pour fonder une société. Et savez-vous quoi? Il y a un paquet de gens qui ont quitté des villes de France pour venir ici, particulièrement le port de La Rochelle, qui était un château fort de chrétiens huguenots qui étaient là. Beaucoup de gens de La Rochelle sont venus ici au Québec pour bâtir un nouveau pays. Et les huguenots, ils cherchaient simplement à obtenir la liberté de conscience et de religion. En France, en 1561, il y avait 400 000 huguenots qui étaient identifiés. Mais arrive le 23 août 1572. Ah, ça vous dit quelque chose, ça? Qu'est-ce qui est arrivé le 23 août 1572? Il y a un mariage à la cour de France. Un homme du nom de Henri de Navarre, un chef protestant, un chef huguenot de très haute prestige, va marier la fille du roi. Et ce 23 août 1572, le système, la hiérarchie catholique décide qu'il ne faut pas que ça arrive, ça. Et il y a un massacre ce soir-là, dans la ville de Paris. 10 000 huguenots sont massacrés ce même soir-là. L'amiral Coligny est un des premiers de ses dirigeants protestants, est tué en premier. Puis c'est Richelieu en bas qui est bien content de voir que ça arrive. Le pape est tellement content de ce qui est arrivé, il fait imprimer une pièce de monnaie à distribuer pour montrer la belle chose qui est arrivée ce soir-là. Le massacre de la Saint-Barthélemy. Dans la semaine qui suit, 100 000 huguenots, il y en a 400 000 en France, 100 000 huguenots sont massacrés dans les régions. Pensez-vous qu'il y en avait qui avaient le goût de venir au Québec? Des huguenots de là-bas? On est proche de 1608, là, hein? 1572, c'est juste une trentaine d'années avant, pour vous montrer un peu la pression qu'il y avait là-bas pour les huguenots. Henri IV, il s'appelle Henri de Navarre à ce moment-là. Pour ne pas être tué, il abjure. Oh, je suis pas protestant, je suis catholique. Il sauve sa vie de même. 3 ans plus tard, il abjure du catholicisme et il retourne huguenot. Il retourne protestant réformé. Et il devient Henri IV, roi de France, en 1589. Notre autoroute Henri IV, là, ça parle de lui, là. Ça, c'est un huguenot, lui aussi, là. Et quand il est devenu roi de France, il était huguenot. Il était protestant réformé. Il était un évangélique. Il se déclarait, il y a beaucoup de politique là-dedans, hein? Il se déclarait protestant en 1589. Mais la pression du pouvoir, en 1593, notre Henri IV abjure à nouveau et il redevient catholique de nom. Mais pour encourager les protestants qui étaient là, il donne un édit très connu. Un édit qui va être perpétuel et qui va être irrévocable. Perpétuel et irrévocable. C'est vous, c'est quel édit dont on parle? L'édit de Nantes. Très important à connaître pour nous Québécois, là. L'édit de Nantes permettait à tous les protestants évangéliques, à tous les protestants de célébrer leur culte publiquement partout en France. Sauf à Paris, puis à 5 lieues de Paris, parce que Paris, c'était la ville de lumière, la ville catholique qui voulait pas se mélanger. Et Henri IV, qui était redevenu catholique, protégeait un peu l'establishment, la bourgeoisie religieuse sur place. Alors, mais il y avait la permission par toute la France, en 1598, de célébrer un culte. Quelques rois plus tard, vient un autre roi. C'est la rue juste en face, ici, là. Elle s'appelle comment, la rue juste en face, ici? Louis XIV. Connaissez Louis XIV? Lui aussi est venu roi dans cette même période. Henri IV est décédé, il a été assassiné par les Jésuites en 1610. 1610, c'est pas mal des années de la fondation de Québec, hein? Québec était fondé en quelle année encore? 1608. Pensez-vous qu'il y avait de la pression en France sur les croyants évangéliques? Certainement qu'il y en avait. Puis les bateaux qui partaient de La Rochelle puis qui venaient ici, là, c'était terre de liberté. Et savez-vous qu'est-ce qu'ils pouvaient apporter dans le bagage, les Huguenots de là-bas? Les Saintes Écritures. Ils sont arrivés ici avec les Saintes Écritures. Louis XIV, en 1662, il confirme l'édit de Nantes. Il confirme que c'est correct pour les protestants de célébrer leur foi à travers la France, puis en Nouvelle-France aussi, là. Mais encore la pression des jésuites en particulier, la pression du clergé. Juste une petite parenthèse, c'est les récollets qui sont venus ici en premier, pour placer la foi chrétienne. Et ils ne faisaient pas une bonne job à chasser les protestants. Fait qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont emporté les gros bras de l'Église. Et là, c'était les jésuites, l'armée contre les hérétiques qui est venue après. Les jésuites sont arrivés par la suite, puis Monseigneur de Laval est arrivé par la suite, puis là, c'est 50 ans plus tard, là, ça, c'est 50 ans après Monseigneur de Laval qu'on fête présentement, il est arrivé juste en 1658, là, 50 ans après la fondation de Québec. Avant ça, c'était les Récollets. En tout cas, ça, c'est d'autres affaires d'histoire. Mais Louis XIV, il publie d'abord que c'est correct l'édit de Nantes, mais il reçoit beaucoup de pression, en particulier de la part des jésuites, et il va renverser la vapeur. En 1600, quelque chose, si je peux le trouver. En 1685, il va déclarer que la France n'a qu'un roi, qu'une loi et qu'une foi. Roi, loi, foi. Et que ça faisait un bon punch publicitaire. Il y avait juste une foi, puis cette foi-là était la foi catholique. Il a ordonné la destruction de tous les temples protestants de la France. Il a donné 15 jours à tous les pasteurs protestants de quitter la France. Et il a ordonné que chaque enfant de la France soit obligatoirement enseigné dans des écoles catholiques. Louis XIV a fait ça. Alors, est-ce que vous vous imaginez qu'il y avait beaucoup de protestants qui avaient envie de venir ici. Beaucoup de ces Huguenots-là s'engageaient dans l'armée. Parce que dans l'armée, on ne demandait pas de certificat de quelle ville tu viens puis de quelle dénomination tu venais. Beaucoup des premiers soldats d'ici, des soldats de régiment de Carignan, beaucoup de ces gens-là étaient des Huguenots. Beaucoup d'Huguenots sont venus ici. En réalité, il est probable que la majorité des premiers arrivants, on parle des premiers 75 ans ici, il est probable que la majorité de ces premiers arrivants à Québec furent des Huguenots. L'historien François-Xavier Garneau, connaissez ça ce mot-là aussi? On a un cégep qui porte son nom, ça c'est un historien. Des années 1809 à 1866, il écrit dans son tome 1 de l'Histoire du Canada en page 34-35, « Ces protestants français s'établirent en Nouvelle-France en fuyant la persécution en France et dans l'espoir de jouir d'une pleine liberté religieuse en Amérique. » Ça, c'est ce que, je ne l'ai pas inventé, là. C'est ce que François-Xavier Garneau mentionne dans son tome de l'Histoire du Canada. Et nos Huguenots avaient des écritures avec eux. Je me suis fait raconter que dans certains endroits de fondement dans le Vieux-Québec, où on plaçait des fondements, on a trouvé des corps humains pognés dans le ciment ou dans l'anglaise ou dans qu'est-ce qu'ils faisaient, couchés là-dedans avec une Bible sur eux autres, ensevelis dans le ciment avec une Bible. Ça devait être, je l'imagine, des gens qui avaient les Écritures. Comme priorité. Ça devait être des Huguenots. Alors que nous célébrons maintenant le 400e anniversaire de la Fondation de Québec, est-ce que la foi chrétienne est-elle toujours aussi pertinente pour vous et pour moi comme elle l'était pour Samuel de Champlain, dont la famille certainement était huguenote? Lui était encore un grand propriétaire de bateaux, alors il vacillait d'un bord puis de l'autre, en tout cas dans ce qu'il disait. Pierre Dugas-Desmonts, son patron, lui était un fier huguenot. Mais Samuel de Champlain, son épouse, Hélène Boulay, est une huguenote très reconnue qui est venue ici pour partager sa foi aussi. Samuel de Champlain était d'origine huguenote. Et c'est, alors, ça avait une pertinence pour lui. Et puis, je me demande si dans notre monde moderne, est-ce que ça vaut encore la peine de mobiliser la ville de Québec pour y proclamer la foi évangélique huguenote de ses premiers arrivants? En formant ce projet de distribuer 350 000 évangiles de Jean. J'aimerais vous dire que oui, c'est pertinent, puis oui, ça vaut la peine. J'aimerais vous donner trois raisons pour ça. Et j'aimerais juste baser en réalité, je voulais lire un verset avant d'aller à la prière. Jean chapitre 4, verset 10. Quand Jésus a quitté un jour, il a passé par la Samarie. Parce qu'il trouvait pertinent, il trouvait important, il trouvait que c'était son devoir de partager l'Évangile à une Samaritaine. Et il est arrivé près de la Samaritaine, puis il lui a demandé de l'eau. Et la Samaritaine est un peu réticente à recevoir l'eau que Jésus lui offrait. Mais Jésus lui a dit, j'aimerais qu'on le prenne pour chacun de nous, si tu, Jean 4, 10, « Si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te demande de l'eau, c'est toi qui courais après lui pour te le demander. Si les Québécois connaissaient le don de Dieu, si les Québécois connaissaient le Jésus qui est le don de Dieu, ils couraient après lui parce qu'ils ont besoin de Jésus. Ils ont besoin du salut, comme vous avez eu besoin du salut. » Prions quelques instants. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci parce que je suis né dans un siècle où ta parole était tellement disponible en différentes langues, en différentes traductions. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, je réalise que ma génération présentement est ignorante de ta parole. Bien qu'elle soit disponible, elle n'est pas appropriée par les Québécois. Et Seigneur, je veux te prier qu'à travers cet été, à travers cette matinée, nous puissions être motivés, mobilisés pour s'engager à partager la semence de vie, ta parole, afin, Seigneur, que toi, tu la fasses croître et que nous puissions récolter de multiples fruits de ta parole. Ô Seigneur Dieu, bénis encore ta parole à nos cœurs ce matin. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Trois raisons pour la pertinence de mobiliser la ville de Québec avec l'Évangile. Un, on doit mobiliser la ville de Québec avec l'Évangile en 2008 parce que, d'une part, Dieu, lui, n'a jamais changé. Dieu, le Dieu de Samuel de Champlain en 1608, c'est le même Dieu d'aujourd'hui. C'est le Dieu créateur, c'est le Dieu éternel, le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui ne change pas ses valeurs et le Dieu qui continue encore aujourd'hui à inviter l'homme à inviter chacun d'entre nous à le connaître, à l'aimer et à le servir. Il désire encore que les Québécois trouvent leur bonheur en lui. Jésus a dit, « Je suis venu afin que les hommes aient la vie, afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Y a-t-il changé d'idée pour 2008? Non, c'est le même Dieu. C'est ce même Dieu qui, d'après les Écritures, a aussi établi un jour de jugement. Nous avons une porte d'opportunité à présenter l'Évangile. Mais je ne sais pas, moi, quand cette porte-là va fermer. Parce que la Bible a dit que ce même Jésus qu'il s'offre comme sauveur aujourd'hui, ce même Jésus, il va revenir et ça va être jour de jugement. Paul disait dans Actes chapitre 17, verset 30, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu, ça nous compte-tu ça? Maintenant, tous les humains, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné une preuve à tous, une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Qui est ce juge? Jésus. Il revient bientôt et la porte va être fermée. Dieu n'a pas changé. Il invite et il y a encore un jour de jugement. Et Dieu offre encore aujourd'hui le pardon et la réconciliation à travers son Fils Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, l'agneau de Dieu qui donne la vie éternelle. par la croix de Jésus. C'est Jésus qui franchit le fossé qu'il y a entre le Dieu saint et l'homme pécheur. Ça prend Jésus et il est disponible. Ce pont-là, il est ouvert encore aujourd'hui. Dieu offre le pardon et la réconciliation. Dieu a encore à cœur de sauver les Québécois en 2008. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous croyez qu'il est trop tard pour sortir avec un évangile de Jean puis dire aux gens, crois au Seigneur Jésus puis tu vas être sauvé? C'est-tu trop tard pour ça? Non, c'est pas trop tard. C'est encore jour de salut aujourd'hui. Et Dieu va sauver quand il y a des gens qui vont ouvrir leur bouche puis qui vont présenter la parole de Dieu. Parce que Dieu a encore à cœur de sauver les Québécois aujourd'hui. Une autre raison pourquoi on doit mobiliser la ville de Québec avec l'évangile, c'est parce que l'homme, de son côté, il a toujours les mêmes besoins. L'être humain a toujours le besoin de réponse à sa raison d'être. Pourquoi est-ce qu'on est sur la terre? Pourquoi est-ce qu'on doit vivre? Pourquoi est-ce qu'on doit chercher le bien autour de nous dans un monde qui est si difficile, qui est déchiré, qui est tellement destructeur? Pourquoi est-ce qu'il faut se battre à chercher le bien encore aujourd'hui? Mais c'est parce que nous avons été créés pour Dieu, dit Blaise Pascal. On a été créés pour Dieu, puis on ne trouve notre raison d'être qu'en Dieu. C'est en Dieu que je trouve ma raison d'être. C'est pour ça que j'ai besoin de le proclamer. L'homme a besoin de valorisation dans sa conscience. L'être humain, il a une notion innée de justice et d'injustice. Si je sors dehors et je donne un coup de pied dans la porte de votre voiture sans raison, j'ai comme l'impression que vous, comme propriétaire, ça va vous faire quelque chose juste ici, à peu près là. Tu sais, ça veut dire, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je veux dire, bien fait. Il me fait quelque chose. Vous avez une notion de justice qui semble naturelle. Une notion de justice, une notion d'injustice. Vous avez une notion du beau, du laid, du bien, du mal. Et dans votre conscience, vous avez besoin de valoriser ça. Vous êtes conscient que vous avez un manque de justice. Vous êtes conscient que vous avez un manque de bonté. Et Dieu offre la paix du cœur. L'homme a besoin de paix. L'homme a besoin d'être valorisé dans sa conscience. Et c'est l'Évangile qui répond à ce besoin-là. L'homme a besoin d'une perspective éternelle. L'homme, il sait qu'il est fait pour plus que ici. Il est fait pour plus que boulot, métro, dodo. Il y a plus que ça dans la vie. Puis chacun d'entre vous, vous le savez, on est tous créés avec une perspective éternelle. On a une soif innée de l'au-delà. On cherche des réponses certaines à nos aspirations profondes. Et la Bible dit que Dieu a mis dans le cœur la pensée d'éternité. Ça, c'est dans le cœur de chaque Québécois, comme dans le vôtre. Vous avez dans votre cœur la soif de Dieu, la soif de plus, la pensée d'éternité. Non, c'est pas vrai que la vie termine 6 pieds sous terre puis que c'est fini après. Votre cœur vous dit que c'est pas ça. Votre cœur vous dit qu'il y a une aspiration pour plus, pour plus haut, pour plus grand, pour meilleur, pour Dieu. Et c'est la Bible qui répond à ça. C'est la personne de Jésus. Les gens ont un besoin de perspective éternelle et les gens ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'aide d'en haut. Parce que les êtres humains, ils savent qu'ils ne sont pas à la hauteur de leurs idéaux. Ils ont plein d'idéaux de justice, de paix sur la terre, de prospérité pour tous. Tout le monde a ce désir que sur la terre, ça soit la paix, puis que ça soit la justice, puis qu'il y ait de la nourriture pour tout le monde, puis que l'écologie, ça soit parfait. Mais de génération en génération, les gens disent « ça marche pas, c'est pire, c'est pire, c'est pire l'écologie, c'est pire la guerre, c'est pire le déséquilibre économique. » On a besoin d'aide, l'homme ne peut pas se sortir par lui-même. Il a besoin d'aide d'en haut, parce qu'il n'est pas capable de vivre à la hauteur de ses idéaux. Il a besoin d'une vie assistée de la puissance d'en haut. Il a besoin de communion avec Dieu, il a besoin de direction dans sa vie, il a besoin de sécurité de la présence glorieuse de Dieu pour l'éternité. Les Québécois de 2008 ont encore désespérément besoin de Jésus. Croyez-vous ça? Croyez-vous ça qu'en partageant la parole de Dieu à des gens, vous répondez à un besoin qu'ils ont? C'est pas juste « Ah, viens pas me déranger avec ça ». Ils ont besoin de l'Évangile. Ils ont soif du fruit de l'Évangile. Et vous avez la réponse. Restez pas à la maison à regarder la TV quand vous avez la réponse pour la soif du monde. Jésus veut encore sauver parce que les hommes ont les mêmes besoins d'être sauvés. Ils ont besoin qu'on ouvre la bouche. Puis ça, c'est mon troisième point. On doit mobiliser la ville de Québec avec l'Évangile en 2008 parce que la méthode pour atteindre le monde pour Jésus-Christ n'a pas changé. Dieu, encore aujourd'hui, emploie une méthode pour atteindre le monde pour Christ. Et cette méthode-là, c'est le message de l'Évangile. Dieu sauve les gens par le message de l'Évangile. Vous connaissez Actes chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a pas d'autre nom que ça. Les gens ont besoin d'être sauvés à travers le message de Jésus. Ce message de Jésus qui est venu puis qui a vaincu la mort. Ce message d'un personnage historique que l'histoire, l'Église, les historiens rendent témoignage. Ce personnage de Jésus qui est l'idéal. Contemplez Jésus, regardez en Jésus. Tout ce qui est en Jésus est beau. Tout ce qui est en Jésus est parfait. Tout ce qui est en Jésus est sans péché. Son caractère, son enseignement, c'est sans égal. C'est l'idéal à rechercher. Et ce Jésus-là, quand il est accueilli dans le cœur des gens, il les transforme. Il transforme ceux qu'il rencontre. J'ai été crucifié avec Christ, c'est ce qu'on a chanté tantôt. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il m'a aimé, il s'est donné lui-même pour moi. Il m'a changé. Paul pouvait dire, Christ est ma vie. La mort m'est un gain. Il transforme ceux qu'il rencontre. Il donne la paix. Il donne le pardon. Il donne le repos. Il donne le salut. Je partage avec un visiteur ce matin qui dit, « Hey, moi j'ai été touché par ce verset-là en France. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Puis j'ai trouvé le repos parce que j'ai rencontré une personne, j'ai rencontré Jésus. Le message n'a pas changé. La méthode d'atteindre le monde pour Christ, c'est de présenter le message de l'Évangile. Jésus, comme on a chanté encore, est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Si le message n'est pas présenté, les gens ne peuvent pas aller au ciel. Est-ce qu'on croit ça? Jésus a dit, nul ne vient au Père que par lui. Parce que Jésus est le chemin, pas un des chemins. Jésus est la vie. Il n'est pas juste celui qui nous aide dans la vie, il est la vie. Il est la vérité. Il n'est pas juste une vérité à peu près que toi, tu la tiennes, puis l'autre, tu la tiennes. Il est la vérité. Dans notre passeport, c'est simple, hein? c'est un petit bracelet. Tu as des couleurs autour. Je vous invite à le porter. Je vous invite à le porter tout l'été à part ça. Il est en plastique, il ne sentira pas mauvais. Il va prendre votre douche, vous pouvez prendre votre douche. Et c'est pas juste parce que c'est un bracelet et que ça nous donne l'accès aux festivités de Québec Espoir 2008, mais c'est parce que ce bracelet-là porte un message aussi. L'or, ça me parle du ciel. Ça me parle de l'épanouissement total. Ça me parle de la présence avec Dieu pour l'éternité. Malheureusement, c'est pas ce que les gens vivent. Il y a un problème avec l'homme, le péché. C'est pour ça que c'est noir, il y a une partie qui est noire. Le péché, c'est une saleté. Dieu est saint, puis il ne peut pas accepter le péché dans le ciel. Il ne peut pas accepter le péché dans sa relation. Le péché doit être confronté, il doit être jugé. Et savez-vous quoi? Mon bracelet me dit qu'il y en a un qui a été jugé pour mes péchés. Le rouge me parle du sang de Jésus. Jésus a versé son sang. Il a pris la punition de mes péchés sur ses épaules à la croix. Son sang m'a lavé de mes péchés. Au lieu qu'il soit noir, je suis devenu blanc. Blanc, plus blanc que la neige. Purifié, déclaré juste devant Dieu, capable d'entrer en relation avec lui maintenant parce que quand Dieu me regarde, il me regarde blanc. Parce que Jésus a payé pour mes péchés. Et c'est pour ça que, puisque j'ai une relation avec Dieu maintenant, je grandis. Je suis en croissance, je suis en espérance. Ça, c'est le vin, la verdure, la croissance. Je grandis maintenant dans ma relation. Et parce que je grandis dans ma relation, ma destinée finale, c'est où? C'est le ciel. Ce bracelet-là nous parle de l'Évangile. Oui, vous pouvez le porter en distribuant des évangiles de Jean. Vous pouvez le porter au parc, voyez-vous. Puis il y a des gens qui m'ont dit, « Hey, c'est un drôle de bracelet, ça! » Ah, ben oui, c'est un bracelet qui parle du sens de ma vie. Pourquoi je suis ici sur la terre? Quel message j'ai pour le monde? Veux-tu l'entendre? ça commence avec l'or. Le plan de Dieu pour ma vie, c'est l'épanouissement. Mais il y a un problème de l'homme. Il y a une réponse de Dieu au problème de l'homme. Et ça prend la réponse de l'homme au plan que Dieu a pour lui. La méthode pour atteindre le monde pour Christ n'a pas changé. Dieu sauve à travers la présentation du message de l'Évangile et Dieu sauve les hommes à travers le témoignage des messagers de l'Évangile. Voyez-vous, Dieu nous a appelés comme des ambassadeurs de Christ et du christianisme. Dieu aurait pu choisir de sauver les hommes sans intermédiaire. Il serait capable de le faire. Il serait capable de sauver hommes et femmes sans que vous ayez affaire à se servir de vous, puis de moi. On est tellement maladroits. Dieu le sait, vous savez. Mais il a décidé de sauver les hommes par la folie de la prédication. Il a dit, c'est de cette manière-là que je vais toucher les gens. Je vais placer des petits monsieur, des petites madames qui vont aller se présenter devant d'autres petits monsieur, d'autres petites madames, puis qui vont leur présenter le message. Je pourrais y aller direct avec des anges. Je pourrais y aller direct avec mon esprit qui zappe les gens. Mais c'est pas ça que je vais faire. Je vais envoyer des enfants de Dieu. Je vais envoyer ceux qui m'ont reçu personnellement pour communiquer verbalement, pour communiquer personnellement le message de l'Évangile. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication, nous dit Paul dans 1 Corinthiens 1:21. Voyez-vous, on pourrait dépenser 1 000-2 000 $, j'imagine, puis mettre ça dans un public-sac. 40 000 dans un public-sac, ça se met. Ça coûte quelque chose. Mais savez-vous quoi? Là, il y aurait le message sans messager. Et j'ai la conviction que les gens vont être bien davantage touchés quand samedi le 5 juillet, ils vont voir une foule de gens ici à Beauport qui viennent tout simplement faire ça. La majorité du temps, ils n'auront pas dit un mot. Ils vont peut-être juste avoir un sourire, par exemple. Ils vont placer ça, ils vont se promener, puis ils vont dire, « Hey boy, ce beau samedi matin, ensoleillé quand ça fait 3 semaines de pluie, comment ça se fait que ces gens-là, ils sortent et qu'ils accrochent de ces petits paquets-là? Ils n'ont pas d'autre chose à faire, c'est ce beau samedi-là. Non, ils ont choisi d'aller là parce qu'ils veulent être des messagers de l'Évangile. Ça va parler. Presque autant que le contenu. Et ils n'auraient même pas besoin souvent d'ouvrir la bouche. J'aime quelqu'un qui dit, « Prêche en tout temps et au besoin, utilise des paroles. » Samedi le 5 juillet, quand vous allez être à porter ça aux portes, vous allez prêcher. Sans parole ou avec parole. Les chrétiens sont des ambassadeurs du Christ. Et nos vies doivent manifester la foi que nous proclamons. Si le christianisme n'arrive pas à nous faire lever de notre siège, ne fonctionne pas pour nous, il est bien inutile de tenter d'exporter chez les autres. On doit vivre la foi qu'on partage. Non seulement les chrétiens sont des ambassadeurs, mais Dieu nous appelle aussi à évangéliser, à faire des disciples. La Bible nous a donné le nom de témoins. Acte 1:8. Vous allez être mes témoins. Ça fait un témoin. Un témoigne, il me semble. Hein? Ça dit qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie. On est des témoins, puis l'objectif, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Alors, si Dieu me dit, je suis un témoin et j'ai comme fonction de faire des nations des disciples. D'après vous, là, est-ce que ce serait normal que Jésus s'attende à ce que chaque croyant ait l'opportunité de présenter la foi chrétienne à d'autres? S'ils comprennent qu'ils sont des témoins puis que l'objectif c'est faire des disciples, c'est-tu impossible? Pensez-vous que Dieu s'attend à ça? Ou il s'attend que ce soit le pasteur René qui fasse ça, ou le pasteur David, où il y a une couple de personnes dans l'Assemblée. Eux autres, ils ont le don de placotage, puis le don d'évangile. Eux autres, ils doivent partager. Est-ce que vous pensez que Dieu s'attend à ce que, vraiment, là, chacun de nous, on soit un témoin, puis qu'on partage notre foi? Savez-vous, moi, j'ai l'impression que oui. Je crois, pour ça, que la Bible a dit que chaque chrétien possède la puissance de la résurrection de Christ en lui. Il y a la puissance du Christ ressuscité en lui. Est-ce qu'il y a beaucoup d'excuses de ne pas partager sa foi à un monde perdu. Je sais aussi qu'il est reconnu que 85% des personnes converties sont venues à Christ à travers un témoignage personnel. 85% des personnes qui viennent à Christ, ils viennent parce qu'il y a eu un ami qui était proche. Un frère, une sœur, un collègue de travail, un ami au sport qui s'est approché d'eux puis qui a parlé l'Évangile. 85%. J'apprécie beaucoup la télévision puis les grandes conférences où les masses peuvent venir. Mais dans mes 30 ans et plus de vie chrétienne, moi aussi, j'ai vu que les gens qui restent assis des années ici sont des gens qui ont été rencontrés par une personne, un par un, puis qu'ils ont invité à ouvrir la Bible puis à partager Jésus. Je suis content des conférences. Je suis content de la distribution de masse. Mais si on peut semer la semence en masse, on récolte les fruits un par un. Quand je vais ramasser des fraises, je les ramasse pas à faucheuse. Je les ramasse un par un. Dieu les fait croître en masse. Alors qu'il y en a en masse cette année des fraises. Mais savez-vous, on va les cueillir une par une. L'Évangile, c'est la même chose. On a besoin de distribuer abondamment. La Bible a dit « sème abondamment ». Puis tu vas récolter abondamment. Mais tu vas récolter un par un. On a besoin de s'impliquer personnellement dans l'évangélisation. Mais Dieu ne nous appelle pas à avoir « Hey, moi j'ai eu 5 convertis, toi t'en as eu 12, moi j'en ai eu un. » Dans l'évangélisation, Dieu nous appelle à la fidélité plutôt qu'au succès. Le succès pour Dieu d'un croyant, ce n'est pas de conduire quelqu'un à Christ. Le succès, c'est de vivre une foi intelligente puis de partager l'Évangile en faisant confiance à Dieu pour les résultats. Ce que Dieu s'attend de moi, c'est que j'ai une vie qui transpire Jésus, que je communique ma foi, puis que je compte sur Dieu pour les résultats. Ça, c'est le succès pour Dieu. C'est pas de dire j'ai gagné tant. Oh, moi, j'ai pas eu 5 conversions jusqu'à maintenant dans ma vie. Ça fait 10 ans que je connais le Seigneur, j'ai pas eu 5 conversions, je suis pas bon. Non, non. Sois un bon témoin dans ta personne, communique et compte sur Dieu. Ça, c'est d'être avoir un succès. Mais communique. On dit des fois qu'il faut évangéliser par l'amitié. Je suis bien d'accord. C'est un excellent moyen dans la mesure que j'aime assez l'autre pour lui communiquer l'Évangile. Le vrai ami a le courage de dire la vérité à son ami et à l'exhorter à obéir à la vérité. Nous sommes devant un été où on voudrait mobiliser la ville de Québec avec l'Évangile. Et pour cela, il faut que les chrétiens se lèvent. Pour ça, il faut que les chrétiens disent « Oui, Seigneur, je vais sortir de ma maison, je vais sortir de mon jardin, je vais sortir de ma zone de confiance, de confort, puis je vais communiquer ta parole, je vais juste accrocher des évangiles. » On a besoin de se mobiliser. Et c'est pas une mobilisation de 3, de 4, de 5. Moi, je prie que le 5 juillet, il y ait plus de 100 personnes ici qui soient mobilisées. Parce que je sais que s'il y a 100 personnes qui sont mobilisées le 5 juillet, ça va tout être parti. Et les frères et les sœurs vont être heureux d'avoir contribué à semer la parole de Dieu. Et ils auront fait quelque chose en communauté qui va nous avoir identifiés. Nous aimons Jésus, nous voulons le faire connaître. Si c'était important pour Champlain de dire « Je ferai valoir le don de Dieu », c'est encore important aujourd'hui pour les chrétiens de participer à ce projet d'évangélisation qui est digne certainement de nos meilleurs efforts. Dieu veut sauver les Québécois de notre génération, puis les Québécois ils ont un grand besoin de Dieu. Et savez-vous quoi? Alors on a le privilège, comme la responsabilité, d'être ces messagers d'un message formidable, celui de l'Évangile. 400 heures de distribution pour souligner 400 ans d'héritage évangélique au Québec. Oh, est-ce qu'on peut prendre la même décision que Champlain? Don de Dieu ferait valoir. Oh Seigneur mon Dieu, merci. Merci pour des gens qui se sont levés puis qui sont venus vers moi. Il y a plus de 30 ans me partageant l'Évangile. Au sein de difficultés, ce n'était pas plus facile pour eux que ça l'était pour nous. Mais ils m'ont communiqué de lire l'Évangile de Jean et de connaître le plan de Dieu à travers lui. Seigneur, merci pour le courage de ces personnes, parce que dès que j'ai tourné l'Évangile de Jean, au 12e verset du premier chapitre, j'ai réalisé que j'étais perdu. J'ai réalisé que je n'étais pas un enfant de Dieu, que j'avais besoin de naître de nouveau. Et Seigneur, c'était cette semence-là qui m'a fait te rencontrer, me donner l'assurance maintenant de la vie éternelle. Oh Seigneur, mon Dieu, je te prie que cette même évangile, semée dans les foyers de Beauport et de Bois-Châtel à partir du 5 juillet, ait cet même effet, Seigneur, de produire la vie éternelle. Seigneur, je veux te prier pour les croyants d'ici. Que, Seigneur, tu leur places à cœur le désir et le courage de se lever pour distribuer cette bonne nouvelle de l'Évangile. Oh Seigneur, nous nous attendons à toi pour les résultats. Nous allons semer et c'est toi qui vas faire croître. Et Seigneur, je veux te remercier à l'avance de la récolte que nous récolterons. Parce que c'est ta parole qui a dit « Celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. » Seigneur, je veux te prier que nous puissions vivre une moisson formidable de l'Évangile, parce que des chrétiens se seront levés pour la semer. Je te prie ces choses au nom de Jésus. Amen.